Radio Okapi. Okapi. Okapi Service avec Marcel Ngombombala. Okapi.
Fidèles auditeurs de Radio Okapi, bienvenue dans cette deuxième partie de votre magazine de la vie au quotidien. Okapi Service, comment lutter efficacement contre les hépatites virales en RDC? Nous en parlons tout à l'heure avec notre invité, Dr Tchamala Pascal, coordonnateur du projet RDC Tokolonga Hépatite. Je vous rappelle le numéro des contacts si vous voulez participer à cette émission par rapport à ces sujets sur comment lutter efficacement contre les hépatites virales en RDC. Le numéro d'appel, c'est les 081 890 63 94. Vous pouvez également nous joindre au 099 706 63 94 ou nous écrire à l'adresse service@radiocapi.net. Nous avons déjà beaucoup de réactions par rapport à ces sujets. Sur la page Facebook Okapi Service, on va découvrir certains de ces réactions pendant cette deuxième partie de l'émission Okapi Service.
Urban Scene, votre magazine de musique urbaine. Une vitrine de la scène musicale urbaine sur Radio Okapi. Tout le jeudi et vendredi à 15h30, le samedi à 20h05 et le dimanche à 12h10, heure de Kinshasa, avec DJ Daddy.
Comment lutter efficacement contre les hépatites virales en RDC? Je le disais, au sommaire de cette deuxième partie de l'émission, nous avons déjà en ligne notre invité, Dr Tchamala Pascal. Bonjour docteur. Docteur Tchamala Pascal, vous êtes en ligne? On dirait qu'il y a des petits problèmes avec la ligne, Docteur Tchamala Pascal. J'imagine qu'on va le retrouver. Le temps que la réalisation aussi à faire, Céleste Massoudi, en tout cas, va retrouver le docteur, notre invité, Docteur Tchamala Pascal, avec qui on va parler du comment lutter efficacement contre les hépatites virales en RDC. Il est coordonnateur du projet RDC, Tokolonga hépatite. Les hépatites virales, il faut le dire, sont des infections peu connues par une majeure partie de la population congolaise. On estime environ à 720 millions de personnes infectées dans le monde, avec près de 7 millions de Congolais victimes. Des victimes qui s'ignorent, des personnes qui sont infectées de l'hépatite virale, c'est l'ensemble des territoires nationaux chaque année. Les hépatites virales, il faut également le dire, sont à la base des décès de plusieurs personnes dans les hôpitaux de la RDC chaque année. On va découvrir tout cela avec notre invité, le docteur Pascal Tchamala, pour savoir c'est quoi cette maladie et qu'est-ce qui fait que c'est une maladie silencieuse, parce que les grands problèmes avec les hépatites virales, ce sont des maladies silencieuses. On peut avoir la maladie sans que les signes se manifestent, et lorsque les signes vont se manifester, il peut arriver que ça soit déjà trop tard, et cela peut poser des problèmes pour la prise en charge médicale. On espère que d'ici là, on aura notre invité, Dr Tchamala Pascal, coordonnateur du projet RDC Tokolonga Hépatite. Il n'est toujours pas encore en ligne, dans le temps pour moi de chercher à lire certaines réactions qui nous ont certaines réactions des internautes sur la page Facebook Okapi Service par rapport à cette maladie sur les hépatites virales. Excusez-moi, je le disais, nous avons reçu beaucoup de réactions sur ces sujets, sur les hépatites virales. On va découvrir certaines de ces réactions avant qu'on puisse avoir notre invité au téléphone, mais je profite également pour rappeler le numéro de téléphone pour ceux qui viennent de se joindre à nous. C'est votre magazine de la vie au quotidien au Capi Service. Nous parlons des hépatites virales qui sont des maladies silencieuses dont souvent on a du mal à savoir qu'on en souffre simplement parce que bien souvent le spécialiste le dit, c'est une maladie silencieuse et le symptôme ou signe apparaissent souvent trop tard et à ces moments-là la prise en charge peut poser vraiment problème. Donc je le disais, on va découvrir certaines réactions par rapport à ces sujets sur la page Facebook au Capi Service. Il y a par exemple cette réaction. Je découvre vraiment un moment que vous, hein, il y a cette réaction de Héritier Waminga qui nous écrit ceci. La médecine moderne semble reculer en RDC par rapport au serment et à l'éthique professionnelle. Comme qui dirait les écritures saintes, le peuple périt faute de connaissances, de se rendre compte qu'il y a plusieurs maladies qui ne sont pas connues et ne sont pas également prises en charge convenablement au moment où nous avons des médecins de tout genre en RDC, qui est la pathologie, qu'est-ce qu'il faut entendre par hépatite virale, quel est son mode de transmission, sa durée d'incubation et son mode de prévention. Donc, c'est des questions que les internautes se posent. On aura tout à l'heure notre invité, le docteur Pascal Chamala, qui va réagir. On me fait signe que ça pose toujours problème. Mais la réalisation va continuer à s'affairer. En attendant, je vous propose de suivre quelques notes de musique.
Yo, Cookie, Magic Hand. Wanna reach on my bed, I call you Ronaldo. Balance it up on me, yeah. Rewind, balance it up on me, yeah. I say balance it up on me.
Voilà, désolé d'interrompre cette musique. J'espère que vous avez le temps de souffler un peu parce que finalement, c'est bon. Notre invité est en ligne, docteur Chamala Pascal. Bonjour, docteur.
Bonjour.
Ah, ça nous fait plaisir de vous avoir enfin au bout de la ligne parce que c'est posé quelques problèmes pour vous avoir en direct. En tout cas, cette fois-ci, ça marche. Merci bien. Vous êtes coordonnateur du projet RDC Tocolon Hépatite. Avec vous, on va parler de comment lutter efficacement contre les hépatites virales en RDC. Avant de parler de la lutte contre les hépatites virales en RDC, aidez-nous, docteur, à découvrir cette maladie. C'est quoi, quand on parle des hépatites virales, qu'est-ce qu'il faut comprendre par ça?
Bon, il faut comprendre que c'est une maladie caractérisée par une inflammation du foie et virale. Pourquoi? Parce que souvent, ce sont des virus d'hépatite B et C qui sont concernés parce que c'est une maladie chronique. Et donc, l'hépatite virale B et C, c'est une inflammation du foie provoquée par les virus B et C.
Ah voilà, donc s'il faut parler de quelques chiffres, dans le monde on parle de 720 millions de personnes infectées et à Kinshasa, plutôt en RDC, on estime à 7 millions de Congolais qui sont des victimes, qui savent pas, c'est-à-dire c'est des personnes qui souffrent, qui ont cette maladie, mais qui ne savent pas qu'ils sont infectés de l'une ou l'autre hépatite. Qu'est-ce qui explique cela, docteur?
Mais en fait, il y a d'abord un petit correctif que je dois faire.
Oui.
C'est une pandémie. Donc, c'est une maladie qui existe dans le monde entier.
Oui.
Alors, en chiffres, nous avons 400 millions de personnes dans le monde qui sont infectées par ces virus.
Oui.
Sur ces 400 millions, il n'y a que 5% de personnes qui sont au courant de leur statut sérologique. C'est vous dire que c'est une pandémie silencieuse, mais elle tue. Et donc, les gens ne savent pas comment se manifeste la maladie, les gens ne savent pas comment s'infecter et ils sont infectés sans qu'ils le sachent. Donc, ça c'est un. Dans notre ville, province de Kinshasa, des petites études que nous avons menées l'année passée ont montré que il y a à peu près sur 100 personnes 7,5 qui sont atteintes, ce qui représente plus ou moins pour une population de 14-15 millions de personnes, ça représente plus ou moins 1 350 000 personnes qui vivent avec cette maladie.
Alors, docteur, c'est justement ça le problème. Comment on peut vivre avec une maladie on n'en est pas conscient, simplement parce que les symptômes n'apparaissent pas. Et on peut rester pendant longtemps avec cette maladie, autant donner sans le savoir.
Oui, effectivement. En fait, on contacte parfois cette maladie dès la naissance, parce qu'une maman qui est virus positif peut infecter son enfant à la naissance. Alors, il y a des enfants qui naissent avec ce genre de maladie, il y a deux possibilités. Un, dans 20% de cas, la maladie est boutée dehors, si je peux dire, par l'organisme de la personne infectée. Mais 80% de cas, les gens passent à la chronicité. Et alors, cette chronicité est malheureusement indolore et silencieuse. C'est-à-dire que la personne ne sent pas qu'elle a en elle telle ou telle maladie. C'est pour cela qu'il est important, dans un milieu et dans le contexte dans lequel nous nous trouvons, les gens doivent se faire dépister. Ils doivent aller dans leur zone de santé se faire dépister. Parce que, effectivement, la maladie étant silencieuse, elle va évoluer pendant des années. Et, par exemple, tu connais un cas d'un enfant qui avait été transfusé à l'âge de 5 ans, et il est mort d'un cancer du foie à l'âge de 45 ans. Pourquoi ? Parce que, bon, à cause de la transfusion, il a été infecté, et voilà, il a grandi avec ça, et malheureusement, c'est seulement vers l'âge de 45 ans qu'il a commencé à présenter des signes de complications de la maladie des hépatites, notamment une cirrhose, notamment de l'acide, c'est du liquide qui s'accumule dans le ventre, notamment des yeux jaunes et notamment des douleurs qui vont signaler que la cirrhose est passée d'une phase silencieuse à la phase douloureuse.
Voilà, docteur, vous avez épinglé là quelques signes des hépatites virales. Alors, nous aimerons savoir le mode de transmission, parce que vous avez également parlé de la transfusion. Donc, il faut nous dire comment c'est transmettre ces différentes hépatites virales, parce que vous avez parlé de B et C, mais on entend aussi parler de A, D, E.
Absolument. Il y a plusieurs types, il y a au moins 5 types d'hépatites.
Oui.
A, B, C, D, E. Mais c'est les hépatites qui font rage, qui passe à la chronicité, c'est souvent la B et la C. Et c'est ça qui constitue le plus grand de la pandémie mondiale. Et donc, ces hépatites se transmettent surtout lorsqu'il y a contact de sang d'une personne saine avec le sang d'une personne contaminée. Et donc, ce contact va se passer au moment des transfusions, au moment des opérations, par exemple, la circoncision. Si la lame qu'on utilise est infectée, la personne qui va être circoncise, par exemple, à la suite de celui qui était malade, va courir le risque d'être aussi infectée. Et donc, les objets tranchants qui sont souillés par du sang d'une personne contaminée, ces objets vont constituer une source de contamination. Par exemple, quand vous allez dans un salon de coiffure, vous pouvez être contaminé parce qu'on a utilisé des lames, des rasoirs et des ciseaux qui ne sont pas désinfectés. Alors, il y a aussi les relations sexuelles. Les relations sexuelles, c'est surtout avec le virus de l'hépatite B. Et il y a des choses comme les manucures, les pédicures, le fait d'utiliser la brosse à dents d'une personne malade peut infecter celui qui n'est pas malade, parce que sur la brosse, il y a le virus qui est là et qui va être transmis. Bref, en gros, c'est le contact du sang infecté avec le sang non infecté d'une personne qui n'est pas malade. Et c'est ça qui va faire que la personne va être contaminée. Et souvent, ça se fait sans douleur. Et par conséquent, comme je vous ai dit, beaucoup de gens ignorent qu'ils sont positifs. Et c'est comme ça qu'on se retrouve aujourd'hui avec autant de gens. Demain, on aura un peu plus parce que les gens ne savent pas. Et donc, ils vont continuer à utiliser les objets tranchants contaminés. Ils vont continuer à aller en contact sexuel avec des gens contaminés. Bref, tous ces modes de transmission ne sont pas connus de la population. Et donc, la population s'expose vraiment à cette maladie dès la naissance.
Oui, docteur, vous avez raison, on se rend compte que il faut davantage sensibiliser, parce que lorsque vous parlez des objets tranchants contaminés suyés par les sangs d'une personne qui est infectée par l'hépatite, lorsque vous parlez de la transmission sexuelle, c'est comme si toutes ces personnes qu'on sait voir à travers la rue de Kinshasa, même dans les salons, utilisaient des fois des objets tranchants, en tout cas c'est pas de façon individuelle, c'est-à-dire que on sait voir des personnes utiliser à deux ou trois certains objets tranchants. On ne sait pas si c'est quand c'est essuyé, peut-être que la personne est déjà infectée par l'hépatite. Donc il faut d'abord sensibiliser. Et vous avez évoqué quelque chose de très important, docteur, le dépistage. Alors à quel moment il faut se faire dépister?
À chaque moment. Si vous êtes par exemple une personne qui a une profession à risque, par exemple les professionnels de santé qui travaillent dans les hôpitaux, oui, doivent se faire dépister pour éventuellement se faire protéger. Pourquoi? Parce que ils manipulent le sang, que ce soit dans les laboratoires ou en hospitalisation, et donc ces gens doivent se faire dépister. Et même dans la vie de tous les jours, maintenant que vous savez que vous pouvez être atteint et que dans notre ville province, il y a autant de gens qui sont atteints, il serait bien, au moment où vous entendez cette information, qu'après ça, vous alliez dans les hôpitaux, il est possible de vous dépister. Et donc, il n'y a pas un moment préférentiel. Il faut y aller, il faut connaître votre statut sérologique. Pourquoi? Parce que lorsqu'on prend à temps ce genre de maladie, on les guérit. Mais lorsqu'on ignore et qu'on attrape ça beaucoup plus tard, alors à ce moment-là, on se trouve devant des complications qu'on ne sait plus gérer, qu'on ne sait plus que accompagner. Donc, le dépistage doit se faire à partir du moment où vous avez entendu qu'il y a une pandémie. C'est vraiment une pandémie. C'est une maladie qui touche tout le monde, au nord comme au sud, à l'est comme à l'ouest. Et donc, on est concerné, on doit se faire dépister.
Voilà, docteur, vous êtes également coordonnateur du projet RDC Togo Longue Hépatite. Avant de savoir qu'est-ce qu'il en est de ce projet et quels sont les différents défis relevés pour vraiment arriver à lutter contre les hépatites virales en RDC, on va en parler avec vous. Et avant d'accorder la parole aux auditeurs qui vont intervenir au cours de cette émission, j'aimerais tout de même que vous réagissiez déjà à cette question sur la page Facebook Okapi Service. C'est Jean-Pierre Passois qui nous écrit depuis Mikalaï au Kasaï Central. Alors, il a posé deux questions. La question à l'invité, quels sont les examens paracliniques qui permettent à dépister l'hépatite et est-ce que l'hépatite virale est curable? Docteur Pascal Chamalo.
Voilà. Les examens, ce sont des examens de sang, des examens de sérologie. On a trois types d'examens. Il y a ce qu'on appelle des tests de diagnostic rapide. On les appelle les TDR. Ce sont des tests qu'on utilise dans les campagnes de sensibilisation pour dépister des gens qui pourraient être positifs. Alors, ça dépend de la sensibilité de ce matériel, mais on parvient à dire que tel est positif, tel est négatif pour le virus B et ou le virus C. Alors, après ces tests de screening, comme on appelle les tests de dépistage, on peut passer au niveau des tests beaucoup plus compliqués, le test d'ELISA, par exemple. Eux, ils vont identifier le virus d'une façon beaucoup plus précise. Et enfin, à la fin, nous avons, pour des gens qui vont entrer en traitement, oui, les tests PCR qui nous permettent alors de valider que la sérologie de tel et tel est vraiment positive et donc vous pouvez lui donner un traitement. Les traitements existent et pour l'hépatite B et pour l'hépatite C. Et même l'hépatite B a un vaccin qui existe. Et donc, si vous êtes positif et que votre partenaire est négatif, il vous est conseillé de faire vacciner votre partenaire parce qu'il court le risque d'attraper la maladie par les relations sexuelles, par exemple.
Bah, docteur Pascal Tchamala, on vous garde en ligne. Nous avons déjà des auditeurs qui veulent bien intervenir. Nous avons Kachai qui nous appelle depuis Kanyoka, héritier depuis Kisangani. Si vous venez de vous joindre à nous sur la fréquence de la paix, vous êtes intéressé par ces sujets sur comment lutter efficacement contre les hépatites virales en RDC. Si vous voulez intervenir, le numéro d'appel, c'est les 081-890-6394 ou encore les 099-706-6394.
Radio Okapi, Okapi.
Pour participer à Okapi Service, appelez au 081-890-63-94. Écrivez-nous à service@radiookapi.net. Envoyez vos SMS et messages audio sur WhatsApp au 099-706-99-40. Bienvenue également sur la page Facebook du magazine Okapi Service.
Kachai nous appelle depuis Kanyoka. Bonjour Kachai.
Bonjour Monsieur Marcel Ngombombala et bonjour à l'invité.
On vous écoute. Quelle est votre préoccupation, votre question par rapport à ce sujet sur comment lutter efficacement contre les hépatites virales en RDC?
Merci beaucoup Monsieur Marcel de la question que vous me posez. Je suis surtout intéressé par la question pour peut-être avoir quelques précisions sur certaines choses que nous sommes en train de connaître dans nos milieux. Alors, que l'invité nous précise un peu, est-ce que cette maladie-là d'hépatite virale est une maladie héréditaire en dehors des conditions de transmission? Mais est-ce qu'elle peut être une maladie héréditaire? Ça, c'est la première question. La deuxième question, à quel âge on peut bien attraper la maladie d'hépatite virale? À quel âge? Parce que si souvent dans nos milieux, nous constatons seulement que c'est surtout le papa et les mamans qui ont déjà pris de l'âge qui souffrent un peu ça. Le jeune en souffre difficilement. Alors maintenant, il peut nous déterminer l'âge et aussi nous préciser comment surtout éviter. Parce que quand il a parlé de fréquentation des salons de coiffure, alors que la plupart des gens se font coiffer dans des salons de coiffure, je ne sais pas maintenant dans ce sens-là, c'est une manière d'éviter de fréquenter les salons, ou soit il y a d'autres stratégies à prendre pour que nous ne puissions pas attraper des maladies. Et surtout, comment connaître, si on vit avec quelqu'un, qu'il a la maladie d'hépatite virale? Quels sont les signes qui peuvent se manifester sur le corps de l'individu, de la personne, attestant qu'il souffre effectivement de cette maladie-là.
Merci.
C'est les conseils.
Voilà. Oui. Et encore une question? Kachai, c'est bon ou vous avez encore une question? Bon, je pense que c'est bon pour... Oui, allez-y.
Comment vous... OK.
Alors, rapidement.
Je voulais un peu qu'il nous précise sur base de cela, afin que nous puissions... Il y a des précautions à prendre, nous pouvons nous aussi prendre des précautions. Et aussi, est-ce que c'est dû aussi aux conditions alimentaires? Parce qu'en RDC, la plupart des gens mangent difficilement. Alors, je ne sais pas si cela aussi est un critère. Merci beaucoup.
Merci, Kachai, depuis Kanyoka, héritier. Vous êtes à Kisangani. Bonjour, héritier.
Bonjour Radio Okapi, bonjour également aux auditeurs qui me suivent à partir d'Opala et Isangi, les deux territoires de la province de la Tchopo. Voilà. Je voudrais intervenir dans cette émission en disant que la médecine moderne semble être reculée en RDC. Pourquoi? Parce que le médecin se penche beaucoup plus de leurs conditions sociales que de mener des recherches pour être le spécialiste. Peut-être la première question, l'invité va me répondre, est-ce que nous avons des médecins capables de prendre à charge l'hépatite virale en RDC? Si oui, la pathologie de l'hépatite virale, son mode de transmission, sa durée d'incubation et la conduite à tenir pour la personne à tête. Néanmoins, nous avons besoin de ne pas dire que le peuple périt par manque de connaissances, comme dit les Écritures saintes. Pourquoi? Parce que nous vivons avec cette maladie sans le savoir. Il n'y a pas de sensibilisation. Le médecin ne veut pas faire de sensibilisation de fois comme on le faisait à partir de télé et de la radio, voilà. Et les gens vivent avec des maladies. Des fois, lorsqu'il y a, vous voyez des maladies qui se compliquent et qu'il n'y a pas de médecin, il n'y a pas d'infirmier pour traiter cette maladie, vous amenez la personne dans des chambres de prière, croyant que ce sont des mauvais esprits. Voilà ma préoccupation.
Voilà, merci Héritier d'avoir appelé de Kisangani. Docteur Pascal Tchamala, vous avez suivi en tout cas beaucoup de questions, d'abord des Kachai qui nous appelait des Kanyoka. Il a cherché à savoir si cette maladie était héréditaire, est-ce qu'il y a un âge pour avoir en tout cas présenté l'hépatite virale, comment on peut éviter. Et il a également demandé si l'alimentation joue aussi un rôle dans la survenue pour être infecté de l'hépatite virale. Docteur Pascal Tchamala.
Ok, la maladie n'est pas héréditaire, mais elle s'attrape à la naissance d'une maman positive qui fait une hépatite et qui va, lors de la délivrance, mêler son sang avec le sang de l'enfant, au moment, par exemple, où on tranche le cordon ombilical. Et à ce moment-là, il y a un contact du sang de la personne infectée, qui est la mère ici, et de l'enfant. Et donc, il est possible de naître avec la maladie sans que ce soit une maladie congénitale. Une maladie congénitale, c'est une maladie qui va se transmettre de génération en génération dans une même famille, etc. Ici, c'est une maladie qu'on attrape, comme je vous ai dit, lorsque le contact avec le sang, entre le sang d'une personne infectée et d'une personne saine, entre en contact, c'est à ce moment-là que les choses se passent. Et d'ailleurs, dans le programme de prévention ou de lutte contre les hépatites, maintenant, il y a un programme dans notre pays qui va vacciner les enfants à la naissance. Et donc, il existe un programme national dans le calendrier vaccinal des enfants. Eh bien, on a mis en place un vaccin pour que, déjà à la naissance, on puisse arrêter cette maladie, surtout le virus de l'hépatite B, parce que le virus de l'hépatite C n'a pas encore de vaccin. Alors, est-ce que c'est plus le vieux que les enfants? Non, la maladie, en fait, va en diminuant de l'âge de l'enfant à la naissance vers les âges adultes. Et donc, ça veut dire que vous allez trouver beaucoup de personnes entre 8 et 18 ans qui sont infectées par la maladie que des personnes âgées. Et donc, ça agit comme un entonnoir, comme ça. Plus on avance dans les âges, moins on a cette maladie. Mais elle peut attraper n'importe qui à n'importe quel âge. Je prends l'exemple des enfants drépanocytaires, par exemple. Ce sont des enfants qui naissent avec des problèmes d'anémie. Ces enfants sont souvent transfusés et malheureusement, ils courent le risque d'être contaminés. Il y a le paludisme. Le paludisme provoque aussi des anémies par ce qu'on appelle hémolyse, c'est-à-dire les globules rouges éclatent et puis la personne fait de l'anémie. Ces personnes, ces enfants qui sont exposés vont devoir être transfusés, et c'est en les transfusant qu'ils vont attraper la maladie. Donc, c'est une maladie qu'on a à n'importe quel âge et quand il y a contact avec un sang contaminé. Alors, faut-il éviter les salons de coiffure? Je dis non. Pourquoi éviter les salons de coiffure? Il faut simplement que les coiffeurs sachent non seulement désinfecter, mais peut-être utiliser le matériel à usage unique, d'une part, ou alors celui qui vient se faire coiffer, il vient avec ses ciseaux, il vient avec sa lame de rasoir qu'il va utiliser, et puis il rentre avec à la maison. Et donc, j'ai pas dit qu'il faut fermer les choses, au contraire, ils doivent améliorer leurs conditions de travail en faisant une désinfection propre et tout. Et la même chose pour ces jeunes gens qui font les manicures, pédicures. Alors, les personnes qui recourent à leurs travaux doivent exiger que le matériel qu'ils utilisent soit un matériel propre, un matériel qui est désinfecté. Et donc, j'ai pas dit qu'il faut fermer les salons de coiffure. Alors, quels sont les signes? Comment savoir que la personne qui est à côté de vous vit avec la maladie alors que vous risquez de l'avoir? Ça arrive souvent, effectivement, que lors des dépistages, on trouve des couples discordants, si je peux dire. C'est-à-dire que le monsieur ou la dame est positif pour le virus B ou C ou les deux à la fois et le partenaire, homme ou femme, lui n'a pas. À ce moment-là, nous conseillons que la personne qui n'est pas atteinte soit vaccinée. Et donc, la meilleure façon de savoir que la personne avec laquelle je vis est positive ou pas, c'est de se faire dépister d'une façon systématique. Les centres de santé doivent être équipés d'un matériel qui va leur permettre de dépister tout quiconque va se marier. De même qu'on fait pour la drépanocytose, donc l'anémie SS, aux jeunes gens qui vont se marier, de même, on devrait faire pour les hépatites. Avant de se marier, on devrait faire passer des tests sérologiques aux futurs mariés pour pouvoir intervenir, traiter les personnes qui vont se marier et éviter qu'ils fassent des contaminations sans le savoir.
Et l'alimentation, oui, docteur, ça n'a rien à voir?
Non, l'aliment, probablement avec de l'eau pour les autres hépatites A et E, je pense, mais pour la B et C, les aliments n'ont rien à voir, sauf si, bien sûr, vous travaillez dans un restaurant et que vous n'avez pas suffisamment d'hygiène et que vous allez infecter les repas que vont manger les personnes. Mais même là aussi, c'est toujours un contact de sang avec du sang contaminé. Donc, les aliments pour l'hépatite B et C ne sont pas concernés.
Docteur, il y avait cette question d'héritier sur la sensibilisation, mais j'aimerais que vous reveniez après par rapport à cette question, parce que ça sera l'occasion pour nous de savoir un peu qu'est-ce que vous avez au sein du projet RDC Toulon à hépatite et comme stratégie pour arriver vraiment à lutter efficacement contre les hépatites virales en RDC. Le temps pour nous de nous rendre à Bukavu, il y a deux auditeurs de Bukavu qui sont en ligne, Mwamba Hassani et Patrice Moudiroi. Mwamba Hassani, bonjour.
Bonjour, monsieur Tatou, c'est Éminent Mwanda Sani depuis Bukavu.
On vous écoute.
Je salue l'invité, je salue aussi les auditeurs de la radio. Nous savons très bien que la RDC est en train de traverser un moment un peu difficile, surtout dans cette période où tout le monde est sensibilisé pour d'abord vaincre la pandémie à coronavirus. Mais le passé, avec l'âge que cette maladie a beaucoup de possibilités d'attaquer surtout les enfants, il fallait vraiment un effort conscient. Il fallait que tout le monde consente au moins le minimum d'effort pour lutter contre cette maladie. Parce que au stade actuel, maintenant même si je crois que l'avant-hier, nous avions même suivi le discours du chef de l'État qui s'était beaucoup articulé sur la santé. Et c'est cet aspect des choses que tout le monde doit cultiver. Mais au stade actuel, selon moi, ma proposition, il fallait que le gouvernement soit le ministère hôpital ayant la santé à ses attributions, de disponibiliser tous les moyens possibles. La sensibilisation, chercher même des vaccins, parce que à RDC, nous sommes en train de souffrir avec certaines maladies qui n'existent plus ailleurs. Mais ici, c'est encore une réalité. Mais si chacun se mettait à sa place, cette maladie, ou ces différentes maladies peuvent aussi disparaître comme partout ailleurs. C'est pour cela que l'hépatite C, c'est l'hépatite virale qui attaque beaucoup plus les enfants. Et ce sont ces personnes-là qui n'ont pas beaucoup de contrôle sur leur vie. Nous devons tous, c'est-à-dire le gouvernement doit d'abord être sensibilisé, doit se sensibiliser pour diminuer. Il faut aussi, selon moi, instaurer dans chaque structure sanitaire une équipe de lutte contre l'hépatite C. Il faut sensibiliser à fond sans du village, parce que selon les statistiques, 770 millions de personnes infectées à travers le monde, ce sont les pays-là qui ont même la possibilité de dépister leurs habitats. Mais ici, si on partait porte à porte à RDC, nous pouvons même tripler ce chiffre-là. C'est pour cela d'abord, comme la maladie est déjà annoncée, on a senti que la maladie existe en RDC, il faut que le gouvernement prenne ça au sérieux pour ne pas flamber dans un nouvel épisode de maladie en RDC. C'est ça ma contribution, monsieur Tati.
Merci, Emina Mwamba, depuis Bukavu. On va rester dans cette même ville pour accorder la parole à Patrice Moudiroua. Bonjour, Patrice.
Bonjour, Marcel Gombo. Bonjour à l'invité et à tous les auditeurs de la radio Capu.
On vous écoute.
Ok. Moi, j'ai quelques questions à poser à l'invité. La première est de savoir quels sont les facteurs qui sont à la base de cette maladie. Et deux, quels sont les signes qui attestent qu'on est affecté par cette maladie. Troisièmement, j'aimerais savoir l'apport de l'État congolais, à l'occurrence, l'apport de la campagne que dirige votre invité qui est au studio. Et enfin, j'aimerais savoir s'il y a une différence entre le VIH-SIDA et les hépatites virales, puisque je me rends compte qu'on attrape cette maladie lorsqu'on est en train de toucher les objets tranchants. Merci.
Merci Patrice Moudiroua. Depuis Bukavu, on revient à notre invité, à Dr Pascal Tchabala. C'est comme je le disais, il y a Héritier qui avait parlé de la sensibilisation. Et là, il y a d'autres auditeurs qui viennent encore parler, hein, en tout cas des efforts qu'il faut conjuguer au niveau de la RDC pour arriver à lutter efficacement contre les hépatites. Hein. Et là, nous savons, vous êtes coordonnateur du projet RDC Tokolong Hépatite. Vous avez également suivi le Patrice qui a chercher à savoir à votre niveau quelles sont les stratégies ou qu'est-ce que vous faites pour lutter efficacement contre les hépatites virales en RDC et s'il y a un partenariat même avec l'État congolais. Docteur Pascal Tchamala.
Ok, merci. Merci aux auditeurs qui ont posé des questions parce que effectivement, comme disait quelqu'un, mon peuple périt faute de connaissances. Et Kozanga Koyeba, Isali Liwanza, comme on dit ici à Kinshasa. Effectivement, on doit tout faire. Et l'État est en train de faire des efforts pour ça. Lorsque nous disons RDC Tokolonga hépatite, il y a un bout qui est là, qui se dit jusqu'au bout, c'est-à-dire que d'ici 2030, le monde entier a prévu qu'on puisse éradiquer la menace des hépatites. Alors, jusqu'au fond, c'est-à-dire que le Congo a 516 zones de santé et il faut que dans ces 516 zones de santé, la lutte soit organisée. Comme a dit M. Mwanda, dire qu'il faut qu'à chaque niveau, on fasse quelque chose. Mais le problème est là. Maintenant que l'État, apparemment, parce qu'il y a des choses qui se font, n'est pas en train de faire, il est en train de se battre pour coordonner cette lutte. Vous devez vous sentir responsable aussi. Vous ne devez pas rester chez vous, croiser les bras en disant bon, j'attends que l'État mette en place je ne sais pas quelle structure. Dans les structures qui existent, nous avons détecté, ici à Kinshasa en tout cas, que beaucoup d'hôpitaux font les diagnostics des hépatites virales. Mais seulement, ça s'arrête là. Alors, ça s'arrête là. Pourquoi ? Parce que l'accès à ces services est vraiment très, très compliqué, parce que ça coûte relativement cher. Alors, qu'est-ce que nous avons fait pour essayer de remplir les vides qui existent en attendant qu'une riposte tout à fait organisée soit mise en place? Il y a ce projet RDC Toro Longa Hépatite qui a trois axes. Il y a l'axe sensibilisation et comme vous venez d'entendre, tout le monde s'étonne qu'on ait des chiffres aussi importants sans qu'on sache que la maladie existe. Et donc, nous devons sensibiliser aussi bien les autorités politico-sanitaires que la société civile, que les individus. À chaque niveau, il y a un discours de sensibilisation qu'il faut tenir pour que tout le monde s'éveille à la maladie et puisse participer, chacun à son niveau, à la construction de ce que j'appelle la cartographie de la menace. Combien de gens sont atteints dans notre pays? Quelles sont les cibles de la maladie dans notre pays? Et ainsi, ayant une cartographie de la menace des hépatites, les autorités et même les individus, parce que tout doit commencer au niveau de l'individu qui va volontairement aller se faire tester. Alors, à partir de l'individu, dans la société civile et tout, chacun à ce niveau doit participer à cette riposte contre la pandémie des hépatites qui a été déclarée bien avant celle de Covid, oui. Qui est de le distraire. Le deuxième axe, c'est la valorisation des zones de santé. Nous avons 516 zones de santé qui ne fonctionnent que lorsque elles sont appuyées par les partenaires. Si elles ne sont pas appuyées, elles ne fonctionnent pas. Ce n'est pas normal. L'État doit faire son effort, mais nous aussi, nous devons faire notre part. Il faut absolument que nous fassions valoriser nos zones de santé pour que nous puissions organiser des soins et des services de qualité, de proximité aussi. Hein. Il y a des gens qui sont malades au Katanga et qui viennent se faire soigner à Kinshasa. C'est fort coûteux et c'est vraiment pas normal. Alors que au Katanga, il y a des structures sanitaires qui peuvent faire ce qu'on fait à Kinshasa. Et enfin, le troisième axe, c'est la solidarité communautaire. Un de nos présidents, pour ne pas le citer, Laurent Kabila, avait dit « prenez-vous en charge ». Vous savez que maintenant, quand vous avez une malaria, la plupart du temps, c'est vous-même, c'est la population qui supporte. J'ai regardé une carte qui montrait que supporter le soin de santé, c'est 42% par la population, 27%, je crois, par les partenaires, et seulement 10% par l'État. Et donc, nous avons la capacité de pouvoir nous prendre en charge en attendant que l'État fasse sa part. Nous pouvons, comme nous faisons dans les églises, les mabonza, et les mabonza qui vont servir à ceux qui ont besoin, par exemple, donc on commencerait par là, ont besoin d'être traités pour les hépatites. On a vu, par exemple, que les maladies qui sont appuyées par l'Occident, c'est-à-dire la tuberculose, le VIH et le paludisme, ces trois maladies ont considérablement régressées, elles sont de moins en moins peu d'impact parce qu'il y a eu un effort international et qui fait que ces maladies sont en train de régresser. Mais en même temps qu'on voit régresser l'importance de ces trois maladies, on voit une montée fulgurante des hépatites qui sont, je dirais, classées parmi des maladies négligées. Ce n'est pas normal parce que ce sont des maladies qu'on appelle des tueuses silencieuses. Voilà les trois axes que nous avons mis en place pour la sensibilisation, pour la valorisation de la zone de santé et la solidarité communautaire. Ça, c'est très important parce que ça va permettre à ceux qui ont moins de pouvoir profiter de ceux qui ont plus et accéder aux services et aux soins de santé qui sont vraiment fort coûteux, en tout cas en ce qui concerne les hépatites virales.
Voilà. Docteur, il avait également cette question, c'est Patrice qui l'a posée, il a cherché à savoir la différence entre le VIH-SIDA et l'hépatite virale.
Alors, là, ce qui est en commun, ce sont des maladies virales. Et même, elles ont des structures très, très proches. Par exemple, le virus des hépatites, B, ce sont des virus à ADN, alors que le virus de l'hépatite C, c'est à ARN. Mais est-ce qu'ils ont quelque chose en commun? Il y a, ça s'arrête là. La structure est différente entre le VIH-SIDA et les hépatites. Mais, et il a raison de le dire, il y a une similitude de la façon dont on peut attraper ces maladies. C'est surtout ce contact d'un sang contaminé avec un sang qui n'est pas contaminé. Il arrive même que chez certaines personnes, on trouve ce qu'on appelle une comorbidité, c'est-à-dire la même personne fait le VIH et en même temps, il est séropositif pour les hépatites B ou C ou les deux ensemble.
Docteur Pascal Tchamal, on va poursuivre avec vous. Il y a un auditeur en ligne, Didier Brelot, qui nous appelle depuis le Kasaï central. Didier, bonjour.
Bonjour.
Didier, vous avez votre radio allumée. Si vous pouvez fermer votre radio ou vous éloigner de votre radio. Alors, on va vous écouter. Qu'est-ce que vous avez à nous dire par rapport à ces sujets sur comment lutter efficacement contre les hépatites virales en RDC?
Ok, je vais juste demander à notre invité qu'il nous dise... Parce que l'hépatite, c'est une maladie comme toute autre, comme tuberculose, malaria et Ebola. Mais pour les autres ici, il y a quand même des sensibilisations partout. Et les gens sont capables de se défendre, de prévenir de telles maladies. Mais pour l'hépatite, surtout dans notre structure médicale, dans nos aires de santé, on n'en parle pas. Je vais juste demander, est-ce ici au Kasaï central, surtout ici à Dema, nous sommes exemptés ou bien qu'est-ce qu'ils ne voient pas? Parce qu'on n'a jamais parlé de cette maladie. Or, c'est une maladie grave et mortelle qui tue des milliers de Congolais. C'était juste ça ma question.
Merci Didier d'avoir appelé depuis Kasaï central. Pierre Moussafiri, vous êtes à Goma. Bonjour Pierre.
Bonjour Marcel, bonjour à tous les invités de la radio Capi, bonjour à l'invité.
On vous écoute.
Merci beaucoup. Moi je dirais qu'une hépatite virale désigne une infection par... un virus de tissu du foie dont la plus grande complication est cirrhose ou cancer du foie. Et dit-on que l'hépatite n'a pas de signes au début, mais au stade avancé, qu'elle manifeste par une peau jaune et une urine foncée. La nausée, des vomissements et douleurs abdominales.
Pierre, s'il vous plaît, il faut qu'on gagne du temps. Le docteur a parlé des signes. Si vous avez une question à poser à notre invité, si on peut gagner du temps, vous pouvez directement poser votre question.
Moi, je pense que pour lutter contre les hépatites, on doit sensibiliser la population pour les faire comprendre les signes qu'on doit, les signes qu'ils savent bien avoir pour voir comment lutter contre cette maladie.
Donc vous insistez sur la sensibilisation, c'est bien ça, c'est ce qu'a dit également Didier Brelot, parce que beaucoup de gens ignorent que les hépatites virales existent, alors que ce sont des véritables tueuses silencieuses, comme l'a dit notre invité, le docteur Pascal Tchamala. Merci à Pierre Moussafiri d'avoir appelé du Goma. Docteur Pascal Tchamala.
Ok, pour répondre à Didier, je vais vous dire qu'effectivement, vous avez raison de dire que les maladies comme la tuberculose, comme le paludisme, comme le sida, sont des maladies dont on fait des campagnes en veux-tu, en voilà. Mais ce que je vous dis, c'est parce que ces maladies sont supportées par des partenaires, sont soignées par des partenaires qui se sentent aussi menacés. par ce genre de maladie. Et donc, ne fonctionne dans notre pays que ces genres de maladies qui sont appuyées. Nous-mêmes, nous ne participons pas à notre propre santé. Et donc, vous avez tout à fait raison que tout le monde sait ce que c'est la tuberculose, tout le monde sait ce que c'est le paludisme, tout le monde sait ce que c'est le sida. Et d'ailleurs, dans notre pays, le sida qui avait un taux de prévalence de plus ou moins 8%, maintenant a un taux de 4%. Ça, c'est à cause de la sensibilisation et de l'éducation de la population et aussi des médicaments qu'on a mis gratuitement à la disposition de la population. Ce qui est fait pour le sida n'est pas malheureusement fait pour les hépatites. Ce qui est fait pour la COVID-19 n'est pas malheureusement fait pour les hépatites. Et donc, c'est vrai, c'est l'État qui doit le faire. Mais la population doit aussi se prendre en charge et se dire, bon, on est en... Par exemple, à Kinshasa, je vous ai dit, la petite étude qu'on a faite, 7,5%. Donc, sur 100 personnes, il y a 7,5 qui sont positifs. Alors, vous comprenez que si tout le monde fait en sorte que ils puissent participer à la lutte, on peut arriver à surmonter cet obstacle financier et pouvoir faire en sorte que tout le monde puisse être satisfait des soins qu'il va recevoir s'il est atteint par les hépatites. Mais il y a, je dois vous annoncer qu'il y a un plan. Il y a un programme national de lutte contre les hépatites qui tarde à sortir, mais qui va sortir certainement parce que le monde entier a décidé de faire en sorte que d'ici 2030, que l'hépatite soit éradiquée. Après, très, très rapidement, pour répondre...
Oui, rapidement, parce qu'on n'a plus qu'une minute. En une minute, docteur, rapidement, oui.
En une minute, pour dire à Pierre que comment reconnaître... une hépatite, à son début, vous êtes contaminé. Une fois que vous êtes contaminé, vous avez une période de silence comme ça, d'invasion, si je peux dire, par le virus qui est silencieuse. Et lorsque le virus a atteint un seuil important, vous allez commencer par faire de la fièvre, une fièvre en plateau pendant plusieurs jours, qui ne peut baisser que quand vous donnez des aspirines ou quelque chose comme ça. Après, quand la fièvre tombe, vous êtes jaune, pas seulement à la peau, mais surtout au niveau des conjonctives. Vous êtes jaune pendant aussi un certain temps. Et quand la jaunisse régresse, vous entrez dans une phase de fatigue qui reste pendant très longtemps.
Voilà. Alors, on va s'arrêter par là, docteur, on a perdu des temps, mais certainement on pourra revenir hein, par rapport à cette question sur comment lutter efficacement contre les hépatites virales en RDC. Merci beaucoup, docteur Tchamala Pascal. Je rappelle que vous êtes coordonnateur du projet RDC Tokolonga Hépatite. Merci d'avoir été de notre voir.
Tolo Tokolonga.